France Inter.
Le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Au programme du 5-6, des personnages hauts en couleur. La famille Kardashian dans la chronique d'où ça sort. Et le président des États-Unis, Donald Trump et ses décrets explosés par l'humour de Charline Van Hoenacker. Personnages hauts en couleur et moins connus aussi. La chronique littorale nous présente un monégasque qui tente de garder l'océan en bonne santé. Le Zoom à 5h40 nous raconte comment, à l'approche de la fin, des inconnus peuvent demander qu'on écrive l'histoire de leur vie. Et à 6h15, rendez-vous avec notre invité déjà debout, PDG d'un groupe producteur notamment de ravioles dans la Drôme. Il y a aussi des variations de rythme ce matin pour vous réveiller, le très entraînant Cool Hand de Derial Yildirim et le groupe Chim Check. Et ça, c'est dans la playlist. Et un éloge de la lenteur dans le Café Philo. Ça sera juste avant 6h. Mais d'abord, le journal de Sarah Derce. Bonjour Sarah.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La colère agricole jusque dans les urnes.
Pas au point de renverser le rapport de force, mais selon les premiers résultats des élections professionnelles aux chambres d'agriculture, la coordination rurale réalise une percée sans précédent. L'alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs reste toutefois majoritaire, mais a perdu du terrain comme jamais. Et c'est ce qui satisfait la CR, syndicat classé à l'extrême droite, connu pour ses actions radicales, Édouard Marguier.
Réunis dans ce restaurant parisien, les dirigeants de la coordination rurale sont ravis d'avoir bousculé l'hégémonie de la FNSEA.
Oui, c'est sûr que c'est inédit.
Christian Convert, secrétaire général de la CR, comme il dit. Son syndicat l'emporte dans 14 départements, la plupart dans le sud-ouest. Le Savoyard a même du mal à y croire.
On va dire qu'on a explosé un plafond de verre. On ne pensait pas arriver à ce niveau-là d'un coup. Ça semble impossible de bouger un mastodonte comme on avait là en face, qui est en place depuis 50 ans quand même. À côté, c'est David contre Goyat, là, aujourd'hui. Hein.
Autre ambiance chez l'adversaire, justement. Dans un autre arrondissement de la capitale, au siège de la FNSEA, c'est la mine des mauvais jours.
On a évidemment un recul.
Arnaud Rousseau, le président, relativise.
Vous le saviez, nous avions près de 95% des exécutifs. Et donc, le niveau de chance que nous reculions était évidemment avéré dans un contexte, encore une fois, où la crise agricole, le contexte politique et géopolitique international est extrêmement anxiogène pour les agriculteurs. Aujourd'hui, je voudrais rappeler qu'on va rester à la tête de 80% des exécutifs des chambres d'agriculture en France.
Au moins trois autres départements ont mis les candidats FNSEA Jeunes Agriculteurs en minorité. En Ardèche, où la Confédération Paysanne a gagné, et en Ariège et Haute-Garonne, où deux listes autonomes l'ont emporté.
Et on connaîtra les résultats définitifs ce soir ou demain. À peine adopté son budget 2025, déjà rectifié, le gouvernement a fait machine arrière après le déluge de critiques. Les très petites entreprises seront pour l'instant exonérées de la TVA comme avant, jusqu'à 37 500 euros de chiffre d'affaires et pas jusqu'à 25 000 euros comme prévu dans la nouvelle loi de finances. Le ministre de l'économie a suspendu hier la mesure, le temps d'une concertation, a précisé hier Éric Lombard. Et à l'Assemblée nationale, séance hier chahutée par la gauche unie dans l'opposition. Les députés ont finalement voté pour un texte des Républicains qui durcit les conditions pour obtenir la nationalité française à Mayotte. Pour tout enfant né sur l'archipel, il faudra désormais une résidence régulière sur le sol français des deux parents et non plus d'un seul. Et ce, depuis 3 ans au lieu de 3 mois. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veut aller plus loin et ouvrir le débat dans toute la France.
Il est 5h04 sur France Inter, Paris, capitale de l'IA, jusqu'à mardi.
Un sommet avec chefs d'entreprise, chercheurs, grands acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle et premier grand investissement annoncé hier, les Émirats Arabes Unis vont construire en France un data center géant. Ce sont des centres de données qui fournissent les énormes capacités de calcul requises par l'IA comme ChatGPT ou DeepSeek. D'ailleurs, Emmanuel Macron sera l'invité de France 2 à ce sujet dimanche soir après le journal de 20h. De son côté, Amazon annonce cette nuit, depuis les États-Unis, investir dans l'IA et le cloud plus de 100 milliards de dollars.
Les États-Unis ou les opposants à Donald Trump contre-attaquent.
Pas dans la rue, mais en multipliant les recours en justice contre ses nombreux décrets. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain en publie chaque jour. Problème, beaucoup sont illégaux selon nombre de syndicats, associations et magistrats. Simon Le Baron, vous êtes à Washington.
L'ultimatum fixé hier à plus de 2 millions de fonctionnaires pour les pousser à la démission, suspendu au moins jusqu'à une nouvelle audience prévue lundi. La remise en cause du droit du sol, signée par Trump dès le premier jour de son mandat, bloquée par la justice, le gel de 3 000 milliards de dollars de subventions et d'allocations, retoqué également au moins temporairement, tout comme le transfert de 3 femmes transgenres dans une prison pour hommes. L'accaparement des données personnelles de millions de contribuables américains par Elon Musk, dans le d'une douzaine de procureurs généraux, la traque des agents du FBI qui ont enquêté sur Donald Trump et l'assaut du Capitole en 2021, visé aussi par une contre-attaque judiciaire. Liste non exhaustive, la Maison-Blanche dénonce autant de tentatives de saper la volonté du peuple américain. L'état de droit, disait hier un juge fédéral, n'est pour le président Trump qu'un obstacle à ses objectifs politiques.
Simon Le Baron, envoyé spécial à Washington. L'influenceur algérien Doualemn, au cœur des crispations entre Alger et Paris, a obtenu hier sa remise en liberté par la justice et l'annulation de son obligation de quitter le territoire français. Le ministère de l'Intérieur va faire appel de cette décision administrative. La justice, qui a tranché à Biarritz, la ville va devoir rebaptiser le quartier La Négresse, un terme portant atteinte à la dignité humaine. La mairie va déposer un recours devant le Conseil d'État. Appel à la grève illimitée chez Lidl à partir d'aujourd'hui partout en France, lancé par les 5 organisations syndicale de FO à la CFDT pour demander une hausse des salaires. Les négociations annuelles sont en cours et les syndicats espèrent obtenir, grâce à cette mobilisation, gain de cause, comme l'explique Manuel Acherman, représentant de CGT de Lidl à Ambar, en Moselle.
Tout le monde est plutôt dépité, quoi. On s'attendait à des meilleures négociations, on s'attendait à un dialogue, on s'attendait à de la considération, en fait. Et ce qu'on n'a pas ressenti sur les 3 réunions qu'on a eues là pour les négociations annuelles. Je veux dire, avant, on avait une prime de participation, ça faisait du bien à tout le monde. Et aujourd'hui, on n'en a plus, quoi. L'année dernière, on n'a pas eu. Cette année, on ne recevra pas non plus. L'intéressement, ce sera au minimum. On nous propose une augmentation générale de 1,2%. L'inflation est à 1,2%. Donc, en vérité, notre pouvoir d'achat, il n'augmente pas, quoi. On nous propose une prime de 100 euros brut. On a juste envie de rigoler, quoi, en fait. On nous en demande toujours plus et au final, on n'a pas cette reconnaissance qu'on mérite. Et cette reconnaissance, c'est déjà au niveau du salaire.
L'amertume de cette représentante CGT en Moselle au micro de Fanette Hourte, d'ici Lorraine, ex-France Bleu. Les syndicats qui s'opposent aussi à un projet d'ouverture généralisée des magasins Lidl le dimanche. Et pour les premiers départs en vacances d'hiver en Savoie, la RN90, l'accès principal qui mène aux stations de ski de la Tarentaise, rouvre finalement entièrement aujourd'hui, vers 16h, après donc l'éboulement rocheux du week-end dernier. Les automobilistes vont pouvoir de nouveau rouler sur deux voies dans les deux sens, à la montée comme à la descente. Le stade briochin hérite du PSG. Cannes accueillera Guingamp. Brest recevra Dunkerque. Voilà les affiches des quarts de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu hier soir. Et Reims, qui a éliminé hier Bourgoin-Jallieu au tir au but, et affrontera Angers.
Et tout ça, c'est du football, bien sûr. Rendez-vous tout à l'heure 5h30, Sarah Ders. Il est 5h08.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Il va neiger, Elodie Calac.
Une journée plus perturbée et plus hivernale, une perturbation s'invite par l'ouest. Quelques pluies ou quelques petites chutes de neige sont possibles du nord-ouest au nord de la Seine. Des pluies plus continues gagnent l'Aquitaine. Elles vont progresser jusqu'au nord-ouest cet après-midi. La neige pourra remplacer la pluie sur les collines normandes. Du Languedoc vers le sud du Massif central et la Côte d'Azur et sur l'est de la Corse, là aussi des pluies qui persisteront demain. Les pluies deviennent plus marquées sur les Cévennes, il neige dès 1200 mètres. Sur le reste du pays, pas mal de nuages, des grisailles et quelques éclaircies. Tout de même, elles sont plus belles en allant vers le flanc est. Ce matin, il y a encore des gelées, comptez souvent moins 3 à 2 degrés. Cet après-midi, ça va rester juste du nord-ouest à l'Alsace avec 3 à 6 degrés. Plus au sud, ça va se radoucir avec 9 à 14 degrés et jusqu'à 16 autour de la Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur un terrain monégasque défenseur de la mer dans les chroniques littorales. Elle occupe les écrans et les réseaux sociaux depuis presque 20 ans. On s'intéresse à la famille Kardashian dans la chronique d'où ça sort. Charline Vanhoenacker explose les faits et notamment les premiers décrets du président Trump. Vous entendrez ça. Et puis, notre invité, déjà debout, va nous donner faim. Guillaume Blanc-L'Œil préside l'entreprise Saint-Jean, spécialisée dans les pâtes fraîches, les ravioles notamment. Et ça sera à 6h moins le quart. Dans quelques minutes, donc, les chroniques littorales, mais d'abord musique avec Lola Young, jeune artiste, compositrice et chanteuse de pop anglaise. Elle chante « Wish You Were Dead ». Wish You Were Dead, extrait de l'album This Wasn't Meant For You Anyway. C'est en playlist sur France Inter et elle sera en concert jeudi prochain pour les auditeurs parisiens à l'Alhambra à Paris. 5h12 sur France Inter, c'est l'heure de nos chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez José-Emmanuel, un marin monégasque.
En la personne de Robert Calgano, Marion, que j'ai rencontré à l'Institut océanographique à Paris. Bonjour Robert Calgano.
Bonjour.
Robert Calgano, vous êtes le directeur de l'Institut océanographique de Monaco, vous êtes polytechnicien, vous êtes un grand défenseur de l'océan.
Je suis originaire de Monaco et la mer Méditerranée était ma mère patrie en quelque sorte et j'ai été toujours très attaché à la défense de la nature. J'ai une expérience personnelle qui peut être intéressante dans ce moment puisque j'ai commencé à travailler à la fois au tout début dans le public au ministère de l'Environnement en France, mais aussi dans le privé, dans des grandes sociétés d'ingénierie et de développement de projets. Puis j'ai rejoint le prince souverain en 2005, le prince Albert II, et aujourd'hui j'essaye d'apporter ma contribution et également ma connaissance du secteur privé. Je pense que c'est important parce qu'au-delà de convaincre les gouvernements, le grand public, aujourd'hui une des grandes priorités de l'Institut océanographique publics et d'amener, de convaincre le secteur privé de mieux prendre en compte la nature et la protection de la nature.
L'Institut océanographique de Monaco, qui est une antenne à Paris, institut historique.
L'Institut a été créé en 1906 par le prince Albert Ier, qui est l'arrière-grand-père du prince Albert II actuel. Et le prince Albert Ier était un marin intrépide qui est devenu un vrai océanographe. C'était aussi un prince humaniste qui a donné sa première constitution à la principauté de Monaco, un grand défenseur de l'océan, peut-être même le premier.
Et vous, l'océan ?
Ah, l'océan, c'est la naissance, c'est le berceau de l'humanité. C'est aussi 71% de la surface de notre planète et un régulateur absolument indispensable du climat. Donc c'est essentiel. L'humanité va chercher à utiliser cette surface disponible. Ce qui est essentiel, c'est qu'elle le fasse bien. Et là, il y a deux possibilités. Soit on considère l'océan comme un endroit de non-droit où tout est permis, où le premier arrivé se sert et pêche le dernier poisson disponible. Et là, ça va mal se terminer. Ou alors, on essaye progressivement de mettre en place une nouvelle régulation, en sachant que l'océan, effectivement, n'appartient à personne, mais je dirais plutôt l'océan appartient à tout le monde. Donc faisons en sorte que ce soit un patrimoine mondial de l'humanité.
Transition facile maintenant avec la conférence internationale des Nations Unies à Nice en juin prochain, l'UNOC.
Ce fameux UNOC, United Nations Ocean Conference. Je me réjouis que la France et le Costa Rica aient décidé donc d'organiser en juin 2025 cette conférence à Nice. Et nous avons été invités par le président de la République française et le président du Costa Rica à organiser juste avant la conférence des Nations Unies à Nice un grand congrès à Monaco qui va s'appeler le Blue Economy and Finance Forum et qui va s'occuper de cette question de l'économie bleue et du financement d'une économie bleue durable. Les enjeux sont essentiels. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 25 milliards d'euros au niveau mondial qui sont tournés vers la constitution d'une économie bleue durable. Or, on sait qu'il faut au minimum 175 milliards d'euros par an pour espérer se diriger vers ce fameux objectif du développement durable numéro 14, celui qui essaye de garder un océan en bonne santé.
Merci Robert Calgano. Un site internet, celui de l'Institut océanographique de Monaco, oceano.org. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque, il est 5h16.
Le 5-6. Sur France Inter.
À la une de la presse ce matin, des gros sous. Les échos promettent de nous dévoiler les grands perdants du budget 2025 après cette loi de finances adoptée hier. La défense, les outre-mer, l'intérieur, la justice voient leurs moyens progresser. Contrepartie, les autres sont à la diète pour arriver à la cible de déficit. Le travail et la transition écologique, l'aide au développement aussi sont au régime. Du provisoire peut-être, puisque l'opinion s'avance. Et titre, budget 2026. Pourquoi il faudra tout changer ? L'État devra, selon le journal, faire participer davantage les collectivités locales et la sécurité sociale. Ce budget prévoit aussi, on le sait, une surtaxe temporaire pour les plus grandes entreprises, d'où ce titre en une de Libé. Fraude fiscale, grand patron, petit calcul. Ensuite, une partagée avec l'animatrice préférée des Français, c'est Karine Lemarchand, avec cette photo en pied d'une femme qui fait la moule. Le journal raconte, je cite, son combat pour mettre l'animateur Hanouna hors champ puisqu'il est pressenti sur M6 lui aussi. Pas question d'amour dans le pré, mais à la une de la Croix, les ados s'embrassent. Gros plan dans le quotidien sur l'éducation sexuelle. Après 2 ans de travaux, le programme annoncé pour les écoles vient d'être détaillé. Le Parisien a enquêté sur ces appels qui nous rendent fous. On parle du démarchage et des arnaques téléphoniques. On reparle aussi des patrons, mais comme d'une espèce rare en quelque sorte dans l'opinion. Les patrons jugés plus crédibles par les Français que les politiques, assure le journal qui se fonde sur un sondage Odoxa, ce qui explique peut-être cette autre nouvelle en couverture du TV Mag sur les liaisons fructueuses entre les entreprises et la télé. Exemple, l'émission « Qui veut être mon associé ?» On pense aussi en son temps à « The Apprentice » de Donald Trump. Et puis, dans vos journaux, il y a aussi cette découverte qui me réjouit au petit matin, c'est en une du Figaro, avec une magnifique photo de cétacés entre deux eaux. Le journal révèle les étonnantes similitudes entre le chant des baleines et le langage humain. Peut-être ne sommes-nous que des baleines comme les autres. Il est 5h19. Et comme tous les matins à cet horaire, un concept, une expression expliquée par Cyril Lacarrière. Hier, dans Zoom Zoom Zen, il était question de Kim Kardashian et de sa célèbre famille. Alors Cyril, d'où ça sort les Kardashian ?
À l'origine, il y a Papa Kardashian, Robert Kardashian, un avocat californien qui va se faire connaître du grand public au milieu des années 90 grâce au procès d'O.J. Simpson, l'ex-star du football américain que le reste du monde a connu dans le rôle de Nordberg dans la série des « Y a-t-il un flic pour sauver la reine, le président, etc. etc. » Des chefs-d'œuvre, si vous voulez mon avis.
Mais c'est mon avis aussi, Cyril.
Bravo. Bref, Robert Kardashian défend O.J. Simpson et participe à le faire acquitter du double meurtre de son ex-femme et de son mari. Pour la petite anecdote, quand cette sordide histoire va être adaptée en série, c'est David Schwimmer, aussi connu pour le rôle de Ross dans la série Friends, et qui est aussi un des plus mauvais comédiens des États-Unis.
On l'adore.
Parenthèse refermée. C'est en tout cas la première incursion médiatique du clan Kardashian. La suivante, elle se passe sur Internet en 2007. Une vidéo fuite, on y voit Kim Kardashian et le chanteur Ray G s'envoyant en l'air. À cette époque, Kim K n'est pas encore Kim K, on la connaît à peine en fait. Et la rumeur court que c'est la propre mère de la jeune femme qui aurait diffusé cette vidéo. Pauline, je vous vois opiner du chef. Non ? Si, non.
C'est une rumeur.
Voilà, une rumeur, absolument. L'iconique...
Madame est journaliste, elle ne veut pas dire n'importe quoi.
Je dis une rumeur. L'iconique Kris Jenner, chef de bande, prête à tout, peut-être, pour médiatiser son clan.
Et c'est là qu'arrive la télé-réalité.
Oui, on sent un plan de com' aux petits oignons. Quelques mois à peine arrive l'incroyable famille Kardashian. En tout, il y aura 280 épisodes. Voilà le phénomène lancé. La série est dopée, notamment par le coming out et la transition de genre de Bruce Jenner, qui devient Caitlyn Jenner. Bruce Jenner était très connu des Américains pour sa médaille d'or au décathlon au JO de Montréal. Bruce, qui est devenu Caitlyn, qui s'est révélée trumpiste. Elle s'est dite tout aussi heureuse, voire plus heureuse que la première fois de célébrer l'investiture du président Trump, c'était il y a quelques jours, un président qui mène une politique anti-trans. Bref, tout ça pour vous dire que cette télé-réalité est hors norme. On y avait aussi croisé Kanye West, le mari d'alors de Kim Kardashian. Preuve du succès, une fois la série arrêtée sur la chaîne E, Disney Plus reprend le flambeau et relance sobrement les Kardashians. Alors, qu'est-ce que raconte l'immense popularité de cette famille ? Pourquoi on les aime autant qu'on les déteste ? Qui est la vraie chef du clan ? Qui est la plus puissante ? Qui est celle que vous préférez ?
Les réponses dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site internet de France Inter. Cyril Lacarrière revient dans l'émission de Mathieu Noël à 16h cet après-midi. Il sera question des 30 glorieuses et de devoirs conjugales, figurez-vous. 5h21 sur France Inter. Dans un instant, c'est l'humour de Charline Vanhoenacker, mais tout de suite, musique avec le chef de file de la pop française, Étienne Dao. Il chante Les Petits Criminels.
Offert un bouquet d'immortels, gage de constance éternelle, de constance éternelle. Mais égaré dans des galaxies parallèles, entre combustions et dégels, combustions et dégels. Sacré cœur en plein ciel, ultime duel à l'autel, où les anges sont infidèles, où les anges sont infidèles. Gestuelle et grosse ficelle à l'appel, jeux inconséquents et cruels, jeux inconséquents et cruels. Pseudo rebelle, tout en toi est fake et virtuel, typique des petits criminels. Toi, ton make-up a salement coulé, et la soirée vient juste à peine de commencer. Désormais hors jeu, de toi j'ai fait le deuil. Je n'ai plus que blessure d'orgueil. Plus que blessure d'orgueil. Ce soir ton make-up a salement coulé. Et la soirée vient juste à peine de commencer. Désormais hors jeu, de toi j'ai fait le deuil. Je n'ai plus que blessure d'orgueil. Plus que blessure d'orgueil. Ce soir ton make-up a salement coulé. Et la soirée vient juste à peine de commencer. Désormais hors jeu, de toi j'ai fait le deuil. Je n'ai plus que blessure d'orgueil. Hélas, blessure d'orgueil.
C'était Petit Criminel d'Étienne Dao. Merci d'écouter France Inter.
France Inter.
À 5h25, du sourire à vous offrir. C'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Mardi, elle s'intéressait au décret de Donald Trump sur les droits de douane imposés puis sitôt retirés.
Comme quoi les décrets Trump, c'est vraiment que de la gueule. Déjà, il avait promis de stopper la guerre en Ukraine en 24 heures. Et comme on n'y est pas, il a dit « Allez, 25% de plus sur les bagnoles et les burritos et tout le monde aura oublié ma promesse ». Trump, quand il gouverne, il mélange tout. Il mélange immigration, commerce, narcotrafic. Pour stopper l'immigration, il peut décider de bloquer les produits étrangers. Comme ça, si un réfugié comptait passer la frontière mexicaine déguisé en tortilla, bah c'est foutu pour lui. Mais voilà, les droits de douane, c'était juste du chantage. En attendant, il a créé une panique mondiale. Vous voyez ce que ça représente, vous, 25% de droits de douane sur les produits américains ? Bah, allez acheter du Coca-Cola bio chez Naturalia, ça vous donnera une idée. Hein. Cela dit, les produits qui augmentent d'un coup sans raison apparente, en France, on appelle ça aussi la grande distribution. Mais alors, panique chez les Américains aussi, qui raffolent des produits mexicains et qui doivent se les procurer par d'autres circuits. C'est comme ça qu'on se retrouve avec le cartel du guacamole. C'est marrant quand les trafiquants se font coffrer. On m'a chopé avec 2 kilos de coke et toi, 3 kilos d'avocat. Une guerre commerciale, c'est un petit peu comme du racisme, mais envers des produits étrangers qu'on stoppe à la frontière. L'étape d'après, c'est poser des filets dans le ciel pour stopper les oiseaux migrateurs. Hier, je lisais dans la presse que la riposte se prépare. Le Mexique et le Canada ont décidé de s'allier pour contrer la menace et faciliter les échanges. Et ça, je crois que c'est le plus terrifiant. Parce que comment vous croyez que les Canadiens, ils ont inventé la poutine ? Il n'y a plus de ketchup pour les frites, ils ont mis du sirop d'érable. Le tacos 3 viandes, du renne, de l'élan, du caribou. Vous êtes prêts, vous, pour le chili con caribou ? Pas moi. Alors, comme les Canadiens ont refusé d'appartenir à Trump, il force, il met la pression. Il utilise la même technique avec les pays qu'avec les femmes. Ouais. Ouais, ouais. L'Europe aussi se prépare à une guerre commerciale. Et moi, quand j'entends les mots « guerre » et « l'Europe se prépare » dans la même phrase... Je ne sais pas si je suis morte de rire ou morte de trouille. Parce que l'Europe n'hésitera pas à riposter en organisant un sommet pour produire une déclaration commune qu'ils valideront lors d'une réunion extraordinaire à l'issue de laquelle un projet de texte sera soumis à la commission du Parlement qui l'étudiera en séance plénière. Oh, l'effet de surprise va être total ! Macron a dit que l'Europe ne devra pas se laisser faire. J'imagine que Bayrou a prévu de s'occuper de la menace Donald Trump. Dès qu'il en aura fini avec la menace Olivier Faure. Notez qu'en France, on a un avantage, hein, rien que sur les fromages. Il y en a 1200 différents. Avant que Trump rédige un décret par fromage, on aura écoulé le stock. Notre arme, ce n'est pas les droits de douane, c'est le maroilles. En Belgique, on est serein vis-à-vis de nos exportations. Bon, il va mettre des droits de douane sur quoi ? La pluie ? Conclusion, moi aussi, je me prépare à la guerre commerciale. Je me dis que plus les taxes sur les produits américains augmentent, ben ça veut dire surtout une hygiène de vie plus saine.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi à 10h moins le quart et demain, samedi à 19h20 pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
France Inter présente
le podcast Les super pouvoirs des bébés.
Zoé Varier.
Les bébés sont-ils dès la naissance des êtres de langage, prêts à communiquer? Ont-ils des intuitions mathématiques, poétiques, des valeurs morales? Pour répondre à ces questions, je suis allée interroger des scientifiques. Les bébés demeurent des êtres mystérieux aux capacités insoupçonnées.
Les super pouvoirs des bébés.
À télécharger sur l'application Radio France.
5h29 sur France Inter. C'est Ali Badou qui vient de me rejoindre dans ce studio pour un avant-goût de notre 6-9. Bonjour Ali.
Bonjour Marion.
Au programme aujourd'hui.
Avec quelques rendez-vous à ne pas manquer à 6h20 après l'annonce du président de la République sur le remboursement intégral des fauteuils roulants. Votre invité sera le député de la Dordogne, Sébastien Pétavi, qui est un spécialiste du sujet. À 8h moins le quart, le débat éco avec le budget 2025 enfin adopté. Qui sont les gagnants et les perdants de cette grande décision enfin prise? Eh bien, nous en parlerons avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Et puis à 8h20, un film et une question, celle de la fin de vie dans le grand entretien. Le dernier souffle de Costa Gavras sort le 12 février avec Cadmera à l'affiche. Ils seront nos invités, ainsi que le docteur Claude Grange, qui est le créateur de l'unité de soins palliatifs à Oudan dans les Yvelines. Rendez-vous avec eux trois tout à l'heure.
Et à tout à l'heure, Ali. France Inter, il est 5h30. Le journal Sarah Ders, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Les très petites entreprises et les auto-entrepreneurs respirent, c'est une expression, jusqu'à nouvel ordre.
Ils seront exonérés de la TVA comme avant, jusqu'à 37 500 euros de chiffre d'affaires et pas jusqu'à 25 000 euros comme prévu dans la nouvelle loi de finances, à peine adoptée. Le budget 2025 déjà rectifié. Le ministre de l'économie a suspendu hier cette mesure, le temps d'une concertation. Éric Lombard, le ministre de l'économie sur France 2 hier soir.
Nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs. Véronique Louwagie, la ministre du Commerce, qui fait partie des 6 ministres de Bercy, va lancer une concertation afin d'ajuster cette mesure, si c'est nécessaire. Et pendant le temps de cette concertation, cette mesure sera suspendue, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs ne devront pas s'inscrire pour payer la TVA, donc on aura le temps du dialogue. Ce qui a marqué ce budget, c'est qu'on l'a fait dans le dialogue. On l'a fait dans le dialogue avec les entreprises, on l'a fait dans le dialogue avec l'ensemble des partis politiques, ce qui a eu quelques effets dont vous avez parlé tout à l'heure, mais ce qu'on voulait, c'est que ça fasse l'objet du dialogue le plus large possible. Et donc, si ce dialogue fait que cette mesure rapporterait moins, on trouvera d'autres façons. C'est aussi vivant un budget. Ce que nous faisons à Bercy, c'est en permanence piloter pour rester dans la trajectoire.
Éric Lombard, le ministre de l'économie. Après le budget, le gouvernement s'attaque au droit du sol. Le débat public doit-il s'ouvrir sur le droit du sol partout en France? C'est ce que souhaite le ministre de la Justice. Gérald Darmanin se dit favorable à une réforme de la Constitution sur ce sujet. Il veut aller plus loin que le texte des Républicains adopté hier en première lecture à l'Assemblée nationale, adopté malgré plusieurs suspensions de séance. La gauche s'est unie pour dénoncer la proposition de loi qui durcit les conditions pour obtenir la nationalité française à Mayotte. Promesse tenue avec désormais une date précise, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés à partir du 1er décembre, a confirmé hier le chef de l'État. La liste des fauteuils pris en charge sera détaillée aujourd'hui, promet Emmanuel Macron. C'est l'heure du dépouillement des bulletins des élections professionnelles aux chambres d'agriculture. On connaîtra les résultats définitifs ce soir ou demain, mais déjà, le rapport de force ça a un peu changé. Si l'Alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs revendique la victoire, elle reconnaît perdre une quinzaine de chambres sur la centaine existante. La coordination rurale, classée à l'extrême droite, revendique une percée, une majorité de sièges dans au moins 10 chambres, dont par exemple le Cher, les Ardennes ou encore le Gers.
Les partis d'extrême droite européenne se donnent rendez-vous aujourd'hui et demain à Madrid.
Deux jours de réunions, d'échanges, de discours, en présence notamment de Marine Le Pen, du Hongrois Viktor Orban, de l'Italien Matteo Salvini ou encore du Néerlandais Geert Wilders. Une démonstration de force, Fabien Cazot.
Renvoi des migrants illégaux, sécurité ou encore dénonciation de ce qu'ils considèrent comme une censure européenne des réseaux sociaux, les Patriotes pour l'Europe comptent bien marteler leur agenda politique aujourd'hui et demain à l'invitation du parti espagnol Vox, dont Jorge Buxadé est une des figures au Parlement européen.
Ça va être, disons-le ainsi, la mise en lumière du Parti des Patriotes qui est sans doute aujourd'hui celui qui a le plus le vent en poupe. C'est l'alternative aux dernières décennies qu'a connue l'Union européenne, avec cette grande coalition de droite, de socialistes, de verts et de progressistes.
Une famille politique qui reprend volontiers à son compte le slogan de Donald Trump, légèrement adapté, « Make Europe Great Again », de quoi scandaliser l'eurodéputée socialiste française Aurore Laluc.
Ils s'appellent patriotes, mais matin, midi et soir, ils sont en train de vanter Elon Musk et Donald Trump, qui souhaiteraient mettre des tarifs douaniers sur nos exportations, celles de nos agriculteurs, celles de nos industriels, celles de nos viticulteurs. Et donc, à un moment, c'est quand même des gens qui se disent patriotes, mais qui finalement se vendent aux intérêts de la puissance américaine.
Notamment dans le viseur des patriotes européens, le pacte vert mis en œuvre par la Commission, dont il demande la suspension.
Fabien Cazot, le correspondant de France Inter, à Bruxelles. Le tribunal correctionnel de Pontoise se penchera mercredi prochain sur le cas de Serge Atlaoui, en prison depuis son récent retour en France. La justice va examiner l'adaptation au droit français de la peine prononcée contre lui en Indonésie, où ce Français a déjà passé 19 ans en prison, condamné à la peine capitale pour trafic de drogue. La commission de régulation de l'énergie l'avait laissé entendre, la grille des heures creuses, heures pleines, va être modifiée à compter de novembre. Les créneaux où l'électricité est moins chère seront décalés en journée, avec une différence entre l'été et l'hiver. L'équipe de France féminine de basket qualifiée pour l'Euro avec une victoire record 125-24 wow. Face à l'Irlande hier, les Bleus ont décroché un cinquième succès en cinq matchs de qualification pour le tournoi prévu cet été.
C'était le journal de Sarah Ders, mais ce n'est pas l'été aujourd'hui dans le ciel, figurez-vous. Sarah, le temps sera perturbé aujourd'hui avec de la neige attendue par endroits. Les pluies s'installent sur le Languedoc, le sud de la Provence et le sud du Massif central. Elles se transforment donc souvent en neige au-dessus de 1000 mètres, notamment sur les Pyrénées et le sud du Massif central. Des averses de pluie et de neige mêlées circulent aussi du Cotentin au nord de la Bretagne, mais aussi sur les hauteurs du Pas-de-Calais, les collines normandes et le nord de l'Île-de-France, partout ailleurs. Les nuages dominent dans une ambiance froide, le vent va souffler, vent d'autant jusqu'à 80 km/h, vent du sud sur les Pyrénées et le Massif central, côté thermomètre, moins 2 à 2 degrés ce matin, 3 à 16 cet après-midi, 3 à Nantes, 4 à Rennes, Lille et Nancy, 5 à Tours, 6 à Paris, Strasbourg et Brest, 8 à Dijon, 10 à Bordeaux, 12 à Lyon et Clermont-Ferrand, 13 à Biarritz, 14 à Marseille et 16 à Perpignan.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, un voyage dans le temps et dans l'espace en Anatolie.
Et oui, départ immédiat, accrochez-vous bien.
Et bien accroché là.
Vous n'aviez pas prévu de prendre de l'acide ce matin ?
Non.
Ça tombe bien, groupe Chinchak est là pour vous, mené par la voix de Derya Yildirim. Ah oui, c'est difficile de ne pas vouloir danser, taper dans les mains, chanter en chœur avec elle. Vous écoutez là le son de la foudre Derya Yildirim et groupe Chimcheck. C'est un groupe formé entre Londres et Hambourg par une musicienne allemande d'origine turque. Elle joue avec une batteuse sud-africaine et deux Français au clavier à la basse. Ensemble, ils ont trouvé une langue commune, la musique et le répertoire classique de la musique folk anatolienne qu'ils adaptent dans une pulsion différente mais sans changer l'essence de la chanson. Derya semble assez scrupuleuse sur ce point de respect d'une tradition.
Nos versions respectent les racines, ce sont les mêmes paroles et la même mélodie mais elles ont peut-être une âme différente.
Et Derya joue aussi du baglama, c'est proche du saz, c'est un petit luth à 7 cordes.
Derya Yildirim et groupe Chimcheck pour vous ouvrir les portes de la perception.
En oui, c'est un peu comme les Doors, mais en Cappadoce. Il y a Camoz qu'on entend là. Même sans parler turc, on comprend que le chant là, c'est plus douloureux, des questions d'arrachement, de la perte, sans savoir si l'on reviendra un jour. La narratrice finit par réaliser que ses racines sont en elle et que partout où elle va, eh bien, elle est chez elle. Alors après avoir autoproduit plusieurs albums ici en France, le groupe a cette fois-ci enregistré avec un producteur américain, Leon Michels, un excellent musicien de Brooklyn, qui prolonge ici leur désir de ce grain un peu rétro-analogique dans le son. Leur nouvel album, Yarin Yoksa, sortira le mois prochain. Et le morceau qu'on a retenu pour Inter, c'est celui-ci, Cool Hand, qui répète à l'envi dans le refrain « Je t'aime, je suis fou de toi ».
Derrière Yildirim et groupe Chimchek à retrouver donc dans la playlist de France Inter.
Ils seront au concert à Paris le 25 mars au Théâtre Zingaro.
Merci Mathieu, on vous retrouve ce soir comme d'habitude, 21h, pour d'autres découvertes et nouveautés musicales.
Oui, je vous parlerai des Grammys, de Kendrick, du nouveau The Weeknd, de jeunes talents, de vieux talents, il n'y a pas d'âge. Et je remets le son.
À ce soir.
À ce soir.
5h41 sur France Inter, Zoom ce matin sur un métier de l'ombre dans les établissements de santé, celui des biographes hospitaliers. Ils recueillent le récit des patients condamnés pour en faire un livre et le remettre ensuite à leurs proches après le décès. Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Vous avez suivi Valérie, biographe hospitalière au CHU de Purpan à Toulouse.
Oui. Bonjour Nathalie.
Ah, bonjour Valérie.
Ancienne infirmière en soins palliatifs, Valérie Bernard s'est reconvertie en tant que biographe hospitalière il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle rend visite à Nathalie, atteinte d'un cancer du rectum incurable.
Ça me fait plaisir de vous revoir chaque fois.
Le plaisir est partagé, n'est-ce pas? Et puis on a du travail ensemble à effectuer.
Le rituel est à chaque fois le même. Valérie installe un micro à la patiente. L'entretien est enregistré sur un dictaphone pour mieux retranscrire ensuite son histoire. Après 2 ans de traitement, Nathalie sait bien qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Alors, elle consigne ses souvenirs comme la naissance de son premier enfant.
Le bonheur d'avoir ce petit être tout chaud sur mon cœur, là, tout d'un coup, ça a été un grand moment. Ça a créé un nouveau lien entre nous trois, parce que c'est inexplicable. Enfin, c'est inexplicable aussi, puisque j'en parle, donc on va bien trouver les mots.
Trouver les mots aussi pour s'adresser à son petit-fils Kamalei, 5 ans.
L'autre fois, il a tapé du pied par terre, il a dit « Mais c'est quoi cette maladie qu'on ne peut pas soigner avec des médicaments ?» Et ça m'a brisé le cœur.
Pour celle que son petit-fils appelle Mima, raconter sa vie et sa maladie est souvent éprouvant, mais le rire succède souvent aux larmes.
Et d'ailleurs, pour Noël, il a eu un coffret à deux chimies. Il m'a dit « Mima, je prépare une potion pour te soigner.
Oh. »
Mais d'abord, on la fera essayer au lutin.
Bon, je veux bien faire le lutin.
C'est un infirmier des soins palliatifs qui lui a parlé de la biographie hospitalière. Comme les autres patients, Nathalie n'en avait jamais entendu parler.
Quand Valérie est arrivée la première fois dans ma chambre, biographe, je ne savais pas du tout que ça existait, je trouvais ça génial. Valérie, elle arrive à faire des choses avec quelques bouts de phrases, à faire des récits complets, et c'est vrai que cette faculté de comprendre ce qu'on veut exprimer, quoi. C'est une aide, certes, pour la famille que l'on laisse, mais je trouve que pour la personne qui le vit, comme moi, c'est une thérapie, ça fait du bien.
Alors, ils sont une quarantaine de biographes hospitaliers en France. Victor, est-ce qu'on mesure les bienfaits de cette biographie hospitalière sur les patients? Et pourquoi sont-ils si peu nombreux?
Eh bien, parce que ce n'est pas encore un métier de soignant reconnu en tant que tel. On le sait, les hôpitaux manquent considérablement de moyens. Pour les biographes hospitaliers, c'est la même chose. Pourtant, Nicolas Safon, chef du service des soins palliatifs au CHU de Toulouse, est persuadé des bienfaits thérapeutiques de ces soins.
Très souvent, on voit que les patients vont avoir moins d'anxiété, vont avoir une meilleure humeur, puisqu'ils s'insèrent dans un projet qui est leur projet. Alors, il y a des études à réaliser pour démontrer effectivement le bénéfice auprès des patients, pour dédier des moyens à cette pratique soignante.
Après le décès du patient, chaque biographe hospitalier remet le livre aux proches. Valérie fait relier l'ouvrage par un artiste. Chaque exemplaire est unique pour elle. Retransmettre ses histoires avec minutie est capital.
Chaque rencontre est tellement singulière, chaque histoire est tellement unique que j'allais dire ce sont les patients qui sont mes guides. Moi j'essaye d'être au plus près, au plus juste de la confiance qu'ils me témoignent.
Valérie n'élude jamais les récits sur la mort, mais elle y tient. Ces entretiens sont avant tout des moments de vie.
On est dans la vie, on rit, voilà, il y a plein d'émotions. On est là pour accompagner et cette vie d'ailleurs elle est réciproque, ce retour il est aussi de la part des patients qu'on accompagne. On partage, nous sommes dans le partage de la vie.
Par expérience, Valérie sait bien qu'il y a de l'émotion quand les patients décèdent. Elle en a même fait un rituel allumant une bougie pour chacun d'entre eux, dont Nathalie, il y a 2 jours.
Dans les coulisses du métier essentiel de biographe hospitalier, Zoom de Victor Dolande à réécouter sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46, l'heure de contacter notre invité déjà debout, président de l'entreprise Saint-Jean, spécialisée dans les pâtes fraîches et leur déclinaison. Bonjour Guillaume Blanc-L'Œil.
Bonjour.
Pourquoi vous êtes déjà debout à cette heure-ci?
Je pense que quand on a la chance de pouvoir perpétuer un héritage culinaire de produits plusieurs fois centenaires comme la raviole, les quenelles, et puis de travailler au quotidien avec 520 collaborateurs qui sont fiers de magnifier ce patrimoine gastronomique, je pense qu'il est, oui, il est facile de se lever tôt le matin, quoi. Et c'est toujours un vrai plaisir.
si les ravioles vous aident à vous lever le matin, alors tant mieux. Alors justement, cette entreprise Saint-Jean que vous dirigez, elle a été fondée en 1935 autour d'un produit phare qui était la raviole du Dauphiné. Alors décrivez-la nous, cette raviole.
La raviole, c'est un petit carré de pâte fraîche qui est fait à base de farine de blé tendre, ce qui rend son fondant exceptionnel, et puis qui est farci à base de comté principalement, 50% de la farce, et puis de fromage frais et de persil. Et c'est un produit qui a une vraie histoire, hein, plus de 400 ans, et qui est présent dans le Dauphiné depuis au moins cette date-là. Mmh.
Elle est née d'une rencontre, cette raviole-là?
Elle est née, on ne sait pas trop comment elle est née, mais en tout cas, elle a été décrite dans des écrits très anciens. Et l'entreprise, non, elle est née de plusieurs fonds de commerce qui se sont associés autour de ce produit, et puis après, qui ont développé d'autres spécialités, comme les pâtes fraîches, les quenelles, les produits traiteurs.
Alors, depuis le début des années 2000, en fait, l'entreprise, elle s'est diversifiée. Effectivement, elle produit autre chose que des ravioles, vous me disiez.
Oui, on s'est diversifié dans d'autres produits de terroir, hein, les quenelles, les pâtes fraîches, les plats cuisinés aussi. Et on s'est vraiment développé, parce que le chiffre d'affaires entre le début des années 2000 et aujourd'hui a été multiplié par 10.
Ça s'est fait sous votre égide, entre guillemets, parce que vous êtes arrivé au début des années 2000, alors que l'entreprise cherchait quelqu'un pour siéger dans le conseil d'administration.
Oui, c'est ça. L'entreprise cherchait à continuer son développement et à se structurer. Et c'est là où je suis arrivé dans l'entreprise et que le développement a continué pour être ce qu'est Saint-Jean aujourd'hui, quoi.
Jusqu'à devenir président en 2019.
Voilà, oui.
Et alors, parmi vos projets, il y en a plusieurs, mais vous voulez développer le commerce avec les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, quasiment la totalité du commerce que vous faites se fait en France. Est-ce que les récents développements politiques aux États-Unis, la crainte d'une guerre commerciale notamment, vont changer quelque chose à ce projet ?
Non, parce qu'aux États-Unis, on se développe essentiellement en restauration, et plutôt dans la restauration haut de gamme. Et même s'il devait y avoir des droits de douane sur les importations de nos produits, je pense que, étant donné les prix auxquels sont vendus nos produits dans les restaurants, l'impact à l'assiette serait quand même relativement limité.
Et donc le reste, vous le vendez en France. On est aujourd'hui à un chiffre d'affaires de 116 millions d'euros par an.
C'est ça, oui.
C'est parce que c'est des produits, ça, qui sont appréciés pour quoi, leur caractère particulièrement français, leur qualité ?
On a des produits vraiment qui sont français. D'ailleurs, Saint-Jean, la baseline de Saint-Jean, on est pastillé français depuis
1935. La baseline en bon français.
Voilà, oui, en bon français. Ouais. Donc, on est vraiment ancré dans notre terroir. On utilise beaucoup de matières qui sont emblématiques de nos terroirs et de nos territoires. Le Beaufort, le bleu du Vercors, des produits vraiment traditionnels. Et en même temps, on a des produits qui sont vraiment consensuels. La pâte, c'est vraiment un bon produit qui se consomme avec les familles et qui plaît à tous les âges.
Et adapté au petit budget, ça a pu jouer ces dernières années. Alors maintenant, ça s'est un peu calmé, mais avec l'inflation qui a beaucoup réduit le pouvoir d'achat.
On reste quand même sur des produits qui sont très abordables et en même temps qui peuvent apporter un vrai plaisir gustatif. Donc voilà, c'est un petit peu c'est vraiment des produits tendance.
Plaisir gustatif, qualité, vous avez un label.
Alors sur la raviole, on a deux labels, oui, le label rouge et l'IGP, donc l'indication géographique protégée. Oui.
Et ça change quoi, ça ?
Ça protège le produit, ça protège la recette, et donc ça évite d'avoir de mauvaises copies qui seraient faites autour de ce produit, quoi.
Petite question d'actualité pour terminer, le budget, vous le savez, a été adopté en première lecture hier à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous ? Est-ce que ça vous soulage en tant que chef d'entreprise ?
Je pense qu'il est important quand même pour la France d'avoir un budget. Pour les entreprises comme les nôtres, c'est peut-être pas le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est sans doute les négociations qu'on a aujourd'hui avec nos clients distributeurs en grande distribution, qu'il faut réussir de manière
sur
à
les
pouvoir
prix des produits, en fait.
Voilà, équilibrer les comptes et passer les hausses nécessaires pour pouvoir continuer à travailler sereinement.
Des négociations qui donc sont en cours et vont durer encore un petit peu. Guillaume Blanc-L'Œil, président du groupe Saint-Jean, qui produit donc entre autres des ravioles à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Merci beaucoup d'avoir été notre invité déjà debout ce matin.
Beaucoup.
5h51 sur France Inter. Les petits bateaux, Camille Cronier et ses spécialistes pour répondre aux questions des grands et des petits surtout. Aujourd'hui, Constance et une observation animalière. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, ça fait mal.
Bonjour, je m'appelle Constance, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi les poules, quand elles vont dans les orties, elles se piquent pas les pattes. Merci, au revoir.
Bonne question Constance, j'aimerais bien des fois moi être une poule pour ça, parce que ça fait mal les orties, peut-être toi aussi. Alors pourquoi les poules, quand elles vont dans les orties, elles se piquent pas les pattes ? Le petit rire que tu entends, c'est celui de Cécile Arnoux, vous êtes à côté de moi, vous êtes éthologue, c'est-à-dire que vous êtes spécialiste du comportement des poules, en l'occurrence à INRAE. Expliquez-nous ce super pouvoir qu'elles ont face aux orties.
Eh ben en fait, elles sont super adaptées, parce que les poules, elles ont pas de chaussures, donc elles marchent pas par terre, donc faut bien qu'elles se protègent. Et donc si tu regardes les pattes, en fait sur les pattes, il y a des écailles le long des pattes, et sous les pattes, elles ont une peau qui est extrêmement épaisse. Elles ont juste une peau qui est différente de la nôtre, dans le sens où la dernière couche, donc celle qu'on voit, la dernière couche de la peau, elle est extrêmement épaisse. Et elle a notamment, comme nous, une protéine qu'on appelle la kératine. Donc la kératine,
c'est ce qu'on a sur les ongles.
Voilà,
nous, hein.
C'est ce qu'on a sur les ongles. Elles ont sur le bec, c'est ce qu'on a dans les cheveux. Et nous aussi, on en a sur la peau. Mais sauf qu'elles, elles ont une couche qui est extrêmement épaisse. Donc en fait, l'ortie, elle n'arrive pas à les piquer.
Elles ne sont pas sensibles aux orties.
Alors, elles ne sont pas sensibles aux orties. Par contre, leur peau est extrêmement sensible. C'est-à-dire que la peau des pattes est protégée par cette couche cornée. Et donc, plus l'animal va marcher va frotter, plus cette couche va être épaisse. C'est comme quand Constance, par exemple, quand tu es en vacances pendant 3 mois, tu marches pieds nus dans ton jardin, et ben, sous tes pieds, tu vas y avoir de la corne qui va se former, et tu sentiras plus les petits cailloux que tu sentais au début. Et ben, c'est exactement la même chose. Par contre, si on regarde la peau sous les plumes, ou au niveau de la crête, c'est
hyper fine.
Voilà, c'est la peau hyper fine. Et là, on retrouve tout ce qu'on a, nous, en termes de ce qu'on appelle les récepteurs sensoriels. Donc, cette peau, elle est sensible quand même à la chaleur. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Si elle se coupe, elle va saigner. Va y avoir aussi des récepteurs pour la pression. Donc, elles sentent si c'est mou, si c'est dur. Et va y avoir aussi ce qu'on appelle des nocicepteurs, qui sont en fait des fibres qui sont sensibles à la douleur.
Donc ça veut dire que si on reste dans un jardin, elles se baladent, ou dans la nature, dans les orties, elles ont pas mal. Voilà. Mais si elles se prennent des ronces, par contre, là, les épines, ça peut leur faire mal.
Voilà, exactement. Ça veut pas dire qu'elles sont insensibles à tout. Ça veut dire simplement qu'elles ont une couche de protection très, très épaisse, mais qu'en dessous, en fait, elles ont la même sensibilité que nous.
Et les plumes les protègent des orties aussi, alors
les plumes protègent. Mmh. Ce qu'on dit, par exemple, c'est dans le bec, dans le bec, à l'intérieur du bec, sous la couche cornée du bec, qui est la partie que tu vois, en dessous, la peau est extrêmement sensible. Et donc la poule, avec son bec, des fois on compare à la main de l'homme, à la finesse qu'on a avec les doigts pour sentir, parce qu'en fait, avec son bec, elle va être capable de reconnaître la forme de l'aliment, si l'aliment il est dur ou s'il est mou. Donc en fait, elle va avoir une sensibilité très très forte.
C'est vraiment son radar, quoi.
Voilà. En plus du goût, et de l'olfaction, puisque les oiseaux sentent aussi.
Trop fortes, les poulettes. Salut les matelots.
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et salut poulettes, si j'ose dire au revoir. Camille Cronier, vous revenez juste après le journal de 20h.
France Inter. Le 5-6.
Et au saut du lit, un café philo pour se réveiller en beauté. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Vous nous parlez ce matin de la lenteur, une idée qui n'a pas la cote dans notre société et contre laquelle nous luttons surtout de bon matin, parce qu'on s'arrache du lit et qu'on est déjà en retard avant même d'avoir commencé sa journée.
Ça sent l'expérience personnelle.
En effet.
Notre monde est ainsi fait, il n'aime pas la lenteur, il n'aime pas les gens lents, les lents sont mous, traînards, ils manquent d'énergie, ils procrastinent, bref, ils sont inefficaces. À l'inverse, la rapidité, la vitesse sont l'apanage de notre monde moderne. Vous n'avez qu'à demander à Elon Musk. Nul besoin de se référer à des contemporains, du reste, pour critiquer la lenteur. Platon, déjà, ne l'aimait pas. Il trouvait que c'était une entrave, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Mais la lenteur, figurez-vous, cette fragilité première, peut devenir une force. Écoutons ce qu'en pensait Jean d'Ormesson. C'était dans le journal de France 2. Il était l'invité de Laurent Delahousse.
Non, j'ai pas de monde, pas de portable, pas de fax, pas de mail. Alors le mail, c'est très amusant parce que les mails m'arrivent par l'académie,
oui,
qui me les envoie par la poste.
Ah.
Alors ils arrivent avec
un petit peu décalé,
8 jours de retard.
Mais vous luttez contre cette tyrannie de l'urgence, finalement, et du temps.
Le temps est quelque chose extraordinaire. Et alors,
et aujourd'hui,
évidemment, la montre, ça me trouble. Le temps, ça me trouble.
Aujourd'hui, on demande à François Hollande de réagir, de surréagir, d'être finalement Nicolas Sarkozy.
On surréagit constamment. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de la lenteur. Et il ne faut pas se laisser aller à cette catastrophe. Je pense qu'il faut ne pas aller trop vite. Je pense qu'il faut faire l'éloge de la lenteur, l'éloge de la maturation.
N'allons pas trop vite, Patricia. Prendre le temps de la lenteur et de la maturation, c'est ce que font en somme les écrivains, les philosophes, les chercheurs en tout genre.
Oui, parce que la lenteur, c'est la patience, hein, cher à Sénèque et Marc Aurèle. La lenteur, c'est le temps qu'il faut pour apprendre à vivre. La lenteur est indispensable à la mémoire. Lisez ou relisez ce merveilleux livre de Milan Kundera, hein, intitulé justement « La lenteur ». Pour lui, elle était même sœur de l'extase, rien de moins. Et pour conclure, ne vous affolez pas si vous trouvez que vous faites les choses trop lentement et souvenez-vous de cette recommandation de Flaubert qui disait « Lisez Montaigne, lisez-le lentement et quand vous aurez fini, vous recommencerez. »
Quel bon conseil. L'heure philo de ce soir, Patricia Martin, sera consacrée à ce sujet de la lenteur avec pour invité Mathias Leboeuf qui a écrit un petit traité de la lenteur publié aux éditions Trédaniel et Laurent Vidal pour Les Hommes Lents. C'est sorti chez Flammarion et tout ça, ce sera à 20h10. À ce soir.
À ce soir, Marion.